Alors, Anne-Marie Coulon n'étant pas là, je suis chargée de dire son texte, le texte qu'elle a écrit pour Adam. Adam, un de mes artistes préférés. Donc, c'est Anne-Marie qui le dit. Hein. Adam. Un homme poète, un homme de cœur, pudique, qui ne se dit ni peintre, ni artiste, un comble. Un homme modeste, et cette modestie du créateur colle tellement bien à son œuvre. Le talent d'Adam est celui des grands de la peinture, des lignes simples, avec un cerne assez épais, qui construit ses personnages tout en économie de couleurs, et avec des yeux grands, très grands, transparents, comme ceux de leur créateur d'ailleurs. Des yeux qui parlent aux nôtres, qui nous font presque reculer tellement ils ont de force, tellement ils ont de choses à dire. Le travail de regard chez Adam rappelle l'expression du dessin de l'enfant de 2 à 3 ans. Les premiers moments où celui-ci arrive à faire un rond pour la tête, un ovale pour le corps, d'où sortent des bras, des jambes, et le moment si jubilatoire chez l'enfant lorsqu'il arrive enfin à placer les yeux, le nez ou la bouche. Mais d'abord les yeux, le plus important sans doute pour Adam, car n'est-ce pas grâce à eux que la communication s'installe en premier entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et les autres. Adam nous ramène donc aux premières émotions de la vie. Les yeux de ces personnages sont des surfaces planes, immobiles, transparentes, pas si vivantes que ça, car pour être aussi gros, ils sont peut-être encore baignés, grossis comme à travers un masque sous-marin. N'y a-t-il pas l'idée, inconsciente, que les personnages créés par Adam voient encore le monde à travers le liquide amniotique, un bonheur perdu avant d'affronter l'extérieur? À travers ces regards, je ressens tour à tour les craintes, la crainte d'aborder le monde extérieur, de la tristesse et de la naïveté, celle du petit enfant confronté à la vie qui lui amènera tant d'écorchures. Et puis il y a les mains qui se rencontrent pour se tenir et se soutenir et supporter ce monde éprouvant. Adam, voilà mes élucubrations. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. C'est Anne-Marie qui le dit. C'est la troisième fois que nous te recevons et nous espérons qu'il y en aura encore beaucoup, car chaque fois, tu nous as apporté de la joie. Tu as préparé pour nous une nouvelle et magnifique exposition. Un grand merci. Continue de faire naître pour nous tous ces personnages le plus longtemps possible. Anne-Marie Coulon, 23 novembre 2011.
S'embrasse à la cousine. Ça s'est bien passé, hein?
Oui.
Je vous présente Alain Bouillet. Alain Bouillet qui propose une causerie. Je veux le titre, sinon je vais. Adam Nikorski, un primitif contemporain?
Point d'interrogation.
Voilà. Alors, je laisse la parole à Alain Bouillet.
Il est professeur honoraire de l'Université de Nanterre et de Montpellier, grand spécialiste de l'art brut, où il a écrit beaucoup sur l'art brut, et puis sur les autres arts aussi. Et c'est il a une grande collection d'art brut, et puis c'est un grand ami à moi. Et il a écrit beaucoup dans beaucoup de revues sur moi. Alors, toujours moi.
Donc, mon propos de ce soir était d'entreprendre avec vous une causerie dont j'aurais eu l'initiative et sans doute dont vous auriez eu ensuite les réponses. Et donc, j'avais écrit un texte, mais de toute façon, vous retrouverez ce texte sur le site www.ateliercln.net. Donc, vous ne manquerez rien, vous pourrez retrouver tout ce que je ne dirai pas, car j'étais parti pour vous lire ce texte, tellement j'en étais content. Et puis, en route, il y a peu de temps, j'ai appris qu'il n'y a que moi qui aurais un siège. et que vous, vous n'en auriez pas. J'ai donc décidé, in extremis, de modifier tout ce dispositif et de reprendre deux ou trois points de cet article ou de cet écrit qui concernait Adam, et surtout de ne pas vous imposer une ankylose gagnante peu à peu, et qui, en plus de ça, on le sait, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc je vais essayer de faire le plus court possible. Le titre, donc, c'était « Adam Nitzgorski, virgule, un primitif contemporain, point d'interrogation ». Et il est évident que le titre porte en lui déjà cette question de fond, mais qui se double d'une autre question. D'une part, pourquoi Adam Nitzgorski serait-il un primitif contemporain ? Et d'autre part, les termes à la fois primitifs et contemporains sont des termes qui sont un peu en opposition. Comment peut-on être à la fois primitif et en même temps contemporain ? Dans le discours qui a précédé, il a été dit une chose tout à fait importante, c'est que le travail d'Adam, les dessins d'Adam, nous ramenaient aux premières expériences de la vie. Eh bien, je pense de mon côté que le travail d'Adam Nitzgorski nous ramène également aux premières expériences de l'histoire de la peinture, et en particulier à ce qu'on a appelé les primitifs vénitiens, qui se sont inspirés des façons de peindre des Byzantins, lorsque ceux-ci réalisaient surtout à cette époque-là des icônes. Et c'est pour ça que je défends de plus en plus cette idée, mais je vais vous dire pourquoi, que le travail d'Adam Nitzgorski est un travail très proche des icônes polonaises et russes. D'ailleurs, vous le savez, son nom vous le rappelle, Adam Nitzgorski est d'origine polonaise, même s'il est né, comme tout le monde, à Cormeilles-en-Parisis. Mais cette idée m'est venue en tête parce que à un moment où nous étions ensemble en Pologne, nous sommes allés visiter sur la frontière de Biélorussie le musée des icônes de Supraschel, qui est un musée d'icônes du XVIIIe siècle. Et dans ce labyrinthe où tout est noir et on circule avec des lumières appropriées, parce que ces icônes sont très précieuses, donc elles sont éclairées de telle façon à ce que l'éclairage ne modifie pas ni la texture, ni la couleur, ni les matières. Quand je suis ressorti de ce lieu, je me suis dit, mais ça y est, j'ai compris. J'avais déjà écrit plusieurs choses sur Adam, en particulier sur les cernes, en particulier sur les regards, c'est-à-dire la façon dont les regards des personnages d'Adam nous prenaient de travers et que parfois on était obligé de détourner le regard tant leur regard était insistant. Ce qui fait qu'on se demandait, en fin de compte, qui regarde l'autre. Je vous signale que c'est une question fondamentale de l'histoire de la peinture. Le regard que l'on porte sur la peinture le porte également sur nous. Bon. Mais en général, ça ne nous frappe pas avec autant d'évidence. Ici, on passe devant ces galeries de personnages et de temps en temps, on a l'impression de les déranger dans une quelconque activité. En plus de ça, ils se retournent et ils nous regardent droit dans les yeux. Donc, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est partir ailleurs, voir si par hasard, on y est. Et je pense que se tisse à la fois entre nous, regardeurs et sans doute un peu voyeurs, et les travaux d'Adam Nitzgorski, ce double objectif du regard qui fait qu'il y a à la fois une fascination qui s'installe et en même temps sans doute quelque chose de l'ordre d'une gêne, donc, parce qu'on se demande à chaque fois si on n'est pas là en train de déranger ces personnages qui étaient en train de faire quelque chose, cueillir des fleurs, bercer des enfants, parler à quelqu'un d'autre. On a l'impression que quand on passe devant ces dessins, d'un coup ils s'arrêtent, ils se retournent vers nous et ils nous regardent. Alors lorsque je dis que Adam Nitzgorski me semble être un peintre proche des primitifs phéniciens, c'est pour la raison suivante. Du coup, j'ai entrelardé ce discours que je vous tiens avec des choses que j'avais écrites. Comme chez la plupart des primitifs italiens, et plus antérieurement dans tout l'art byzantin qui fonde cette représentation du monde que l'on retrouve de nos jours dans les icônes russes, dans les œuvres d'Adam Nitzgorski, l'anatomie des êtres représentés ne correspond pas à ce que d'expérience nous savons d'elle. Les proportions du corps, des têtes, du cou, des membres, ne concordent pas avec celles auxquelles nous sommes accoutumés. Le dessin manque d'observation et de correction, surtout dans le détail. Les volumes, d'ailleurs généralement absents, ne coïncident pas avec la forme habituelle des objets. Les couleurs ne satisfont pas à ce que nous savons être celles de ce qui s'y figure. Le lieu où se trouvent des personnages est insituable. L'espace manque de la profondeur à laquelle nous sommes habitués. Les figurines nizgorskiennes sont le plus souvent sans fond, hormis celui du papier, ni décor, flottant soit en solitaire, soit par groupes agglutinés, à la surface de la feuille. En outre, les personnages dépeints ne sont pas éclairés, l'ombre n'est pas de leur monde, la lumière est intérieure, ils irradient. Alors, on peut évidemment se poser cette question. Pourquoi une figuration de personnage tellement éloignée de l'expérience habituelle que l'on a des corps, du modelé, des volumes, de l'ombre et de... Donc, il y a deux réponses à cette question. Ou bien le peintre ignore à peu près tout du corps humain et des modalités de sa représentation. Ça existe, on en connaît. Ou bien il y a une autre volonté à l'œuvre dans le travail d'Adam Nizgorski, et c'est évidemment cette seconde hypothèse que je privilégie. Car, je continue ma lecture, ce que nous relevons comme étant des défauts, des imperfections, des anomalies ou des malfaçons, est en fait le résultat du choix par l'artiste d'un parti pris. Celui d'installer ses personnages dans l'immuable, l'insituable et l'intemporel, qui par définition échappe au changement. Ainsi, l'anatomie ne le préoccupe-t-elle pas davantage, hormis la tête, ou plutôt le visage, un visage en général réduit à celui d'un tracé minimal, mais néanmoins efficace, engendré à partir des cernes oculaires qui en marquent la majeure partie, le nez, la bouche. Le visage est occasionnellement traversé par des orages colorés. Les mains, quand elles existent, sont signifiées par un renflement boursouflant, l'élongation du trait qui définit les bras. Le torse est parfois présent, mais le bas du buste est le plus souvent absent. Et quand il est représenté, il s'inscrit dans l'étendue d'une surface colorée, allant de la tête aux pieds. La même couleur valant généralement pour l'ensemble du corps, un corps moins la tête, qui se manifeste sans qu'aucune volonté d'en rendre volume soit décelable. Donc, la couleur des personnages dans les dessins d'Adam Nizgorski n'a pas directement de rapport ni avec ce qu'on pourrait imaginer comme étant un vêtement, ni avec une carnation, par exemple la peau, comme les peintres se sont appliqués à la représenter. Sans doute, ces couleurs ont-elles quelque chose à voir, me semble-t-il, avec les sentiments qui les traversent. Comme si effectivement ces corps étaient interpénétrés par des couleurs qui renvoyeraient à des états d'âme, des états d'être, des façons de se comporter, quelque chose qui tient à la relation qu'on entretient avec la personne qui est à côté de soi. Donc, quelle primitivité dans les dessins d'Adam ? Eh bien, on le sait, le parti pris du peintre primitif a des raisons qui, pour n'être pas les nôtres, sont fondées. Elles tendent à produire le sentiment du sacré. Et en ce sens, les modalités de représentation des personnages qui peuplent les dessins d'Adam sont celles qui ont cours quand il s'agit effectivement de dépeindre le monde du sacré plutôt que le monde du religieux. Car dans le monde du sacré, les figures peintes, tout en revêtant l'apparence humaine, ne conservent de celles-ci que ce qui est nécessaire pour les identifier. Dans le monde du religieux, tout en conservant leur désignation symbolique qui demeure repérable par quelques indices socialement et esthétiquement codés, par exemple, dans les tableaux de Bellini, le manteau de la Vierge est toujours bleu, elles tentent à se rapprocher de l'apparence humaine sans pour autant se confondre avec elle. Ces deux mondes, le sacré et le religieux, se révèlent en peinture par des moyens d'expression différents. Prédominance de la ligne, de la couleur plate, aboutissant à une image irréelle, comme celle que nous présentent les peintures des primitifs vénéto-byzantins ainsi que les icônes du musée de Schuprachel, prédominance de la couleur, du modelé par la lumière, tendant à produire un effet de réalité, comme par exemple dans la Madone à l'enfant de Bellini. Et c'est évidemment pas par hasard que je prends cet exemple, car ici, des Madones à l'enfant, vous en avez beaucoup. Simplement, le tout est traité non pas en volume, non pas avec une volonté de faire un effet de réalité, mais justement en sacralisant à la fois le trait et la couleur. Alors, bien évidemment, cette sacralisation est une sacralisation laïque, car je pense que effectivement, le travail d'Adam Nizgorski est de constituer une iconologie de l'être humain. mais de l'être humain dans son être, dans ses souffrances, dans ses douleurs, dans ses incertitudes, dans ses amours, dans ses doutes, dans ses embrasements, dans ses retraits. Une iconologie qui rend compte de la quotidienneté et du questionnement des êtres humains. Que ceci, encore une fois, soit représenté de façon solitaire, ou bien qu'on les trouve en groupe ou en troupe. Mais vous le savez très bien, qu'on soit seul ou qu'on soit plusieurs, on est toujours seul. Donc, un travail qui tente à représenter l'être humain, parce que Adam, qui non seulement peint mais également écrit, a un jour écrit cette chose: c'est l'être humain qui m'intéresse le plus, il est multiple, on peut le représenter de différentes façons, et cela à l'infini. C'est quelque chose d'inépuisable, il a tellement de doutes, de douleurs, d'envie et d'espoir, c'est fou, on ne pourra jamais l'épuiser entièrement depuis sa naissance jusqu'à sa mort. C'est pourtant l'entreprise qu'a décidé de mettre en œuvre Adam Nizgorski. Je vous remercie de votre attention.